Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis heureuse de reprendre contact avec vous et avec Radio Présence. Et évidemment, après 2 mois de confinement, ça a été un peu long. Mais nous allons donc reprendre nos émissions de littérature consacrée à la littérature. Mais en raison des circonstances, ce sera non pas un parole d'auteur, mais ce sera un parole de lecteur ou de lectrice, et ceci jusqu'au début du mois de juillet. Voilà, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Douillère, qui va nous parler d'un ouvrage qui est resté célèbre, qui s'intitule Fahrenheit 451 et qui a été écrit par Ray Bradbury. Marie-Hélène Douillère, bonjour.
Bonjour, Monique Fauché.
Voilà, alors merci d'inaugurer ce déconfinement. Ce déconfinement donc où tout est quand même sécurisé, hein, je le dis à nos auditeurs, nous sommes là en toute confiance. Vous avez choisi de nous parler de Fahrenheit 451 et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, vous avez eu raison à plus d'un titre. Voilà, c'est un roman ancien pourtant.
C'est un roman qui a presque 70 ans.
Oui. Et écrit par...
Qui a été écrit par Ray Bradbury, qui est un Américain, qui est né à Chicago. Il avait une trentaine d'années quand il l'a écrit, mais dans un contexte politique, qui est l'après-guerre, la peur d'une nouvelle guerre nucléaire qui puisse s'abattre sur les États-Unis. Et...
Oui,
surtout,
très marqué. Oui,
c'est très marqué et la montée du maccartisme.
Oui, oui. Après le nazisme, le maccartisme, nous allons de situation conflictuelle aux situations conflictuelles. Et en fait, en réfléchissant à ce livre, j'ai pensé à George Orwell qui avait écrit un peu à la même époque, en 1949.
Oui, dans les mêmes époques.
Voilà.
Les mêmes dates.
Un livre intitulé 1984, bon, en 1984, oui, il y a eu des guerres, probablement, comme partout et comme tout le temps, j'ai pensé à cet ouvrage. Donc, c'est vrai que quand on parle de Ray Bradbury, tout le monde, enfin, beaucoup de gens, ceux qui aiment lire et ceux qui lisent, évidemment, quand même, pour eux, ça résonne.
Alors, ça résonne, il a une étiquette, il est auteur de science-fiction, mais il a une définition à lui, il dit « Je n'écris pas de science-fiction, j'écris seulement un livre de science-fiction et c'est fondé sur la réalité ». La science-fiction est une description de la réalité.
Oui, parce qu'il y a toujours un côté social quand même. Hein.
Tout à fait.
Voilà, et comme vous disiez tout à l'heure, en relation avec le maccartisme qui battait son plein, et puis avec ce qu'il avait connu du nazisme, évidemment, durant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, effectivement, c'est lié aux conditions sociales, à la politique même, mais en même temps, dans son style, il n'est pas qu'auteur de science-fiction, selon moi. Il a une forme de poésie. Je pense à Chronique martienne.
C'était le livre qu'il a édité juste avant.
Juste avant.
Oui.
Alors, on peut dire à nos auditeurs qu'ils peuvent le lire, parce que c'est un plaisir. Ce sont des chroniques. Il y a de la science-fiction, mais c'est original. Il y a un imaginaire incroyable. Et puis, il y a de la poésie.
Il y a beaucoup de poésie. Mais il a fait beaucoup de choses différentes. Au début, il a beaucoup écrit. Il a commencé à 17 ans à publier des nouvelles. Et il y a eu toute une période où il s'est arrêté d'écrire, mais il a été auteur de pièces de théâtre, il a fait des scénarios de films, enfin, il a touché un petit peu à tous les aspects l'écriture.
Oui, et parce qu'en fait, il venait d'un milieu relativement pauvre,
oui.
Mais il n'a pas voulu être dans un travail lambda, il voulait écrire.
Il voulait écrire. Quand il a eu son diplôme de fin d'études à 18 ans, ou 16 ans, 16-17 ans, il a refusé d'aller à l'université. Il voulait écrire et pour subvenir à ses besoins, il était vendeur de journaux au coin d'une avenue.
D'accord. Ah oui, et alors il paraît qu'il écrivait des fanzines. Alors pour nos auditeurs, les fanzines, ce sont des petits livres de BD, comme il y a encore, je suppose. Mais je sais que moi, je dois l'avouer, que vers 14 ans, je lisais des fanzines, des BD ou des choses, enfin, qui étaient intéressantes. Enfin, ce n'était pas toujours d'un très bon niveau. Alors oui, alors donc, très tourné, très jeune vers la littérature et doué. Finalement, on se rend compte qu'il était doué. En fait... évidemment, ce roman de science-fiction, j'ai lu quelque part que c'était un roman dystopique. Alors, évidemment, dystopique, je vais vous dire, chers auditeurs, de quoi il s'agit. C'est une histoire ayant lieu dans une société imaginaire difficile ou impossible à vivre, pleine de défauts, et dont le modèle ne doit surtout pas être imité. Donc, vous avez compris, ce n'est pas une utopie, non, non. Effectivement, c'est effrayant. Mais alors, vous, Marie-Anne Bouillard, qui avez lu un certain nombre de livres de science-fiction, est-ce que vous connaissez des livres de science-fiction qui sont utopistes ?
Non, alors, on peut trouver des livres de science-fiction utopistes, mais ça reste en général assez peu fouillé, ça reste très... presque enfantin. Autrement, c'est...
assez effrayant, en règle générale.
Asimov n'est pas effrayant.
Non. Le monde du A, le monde des Noirs.
Ah oui, oui, par là, exemple. Là, oui, mais oui,
demain les chiens. Enfin, on fera.
Oui, Philippe K. Dick fait
Philippe
peur.
Oui, il faudra faire une émission spéciale science-fiction parce que beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs, même ne connaissent pas la science-fiction et il y a vraiment des petits bijoux. J'ose le dire, il y a des romans qui valent vraiment le coup d'être lus.
Oui, et c'est le cas pour Fahrenheit 451, parce qu'il utilise de la science-fiction, c'est-à-dire il utilise des choses qu'il a imaginées qui pourraient se produire, mais en décrivant une société qui peut être une société... Qui est là maintenant, aujourd'hui,
bien sûr.
Avec
oui.
des individus.
Sauf que quelque chose qui peut se produire, mais qui s'était déjà produit. On peut parler des autodafés.
Tout à fait.
Alors, on va parler déjà du contenu, parce que là, nous parlons de ce livre sans en parler. Le titre, déjà, fait référence à quoi ?
Alors, c'est la température théorique, où le papier s'enflamme spontanément et se consume. Ça correspond en degrés Celsius à 232-233 degrés.
Assez chaud, donc.
Voilà, c'est assez chaud. Alors après, les grands spécialistes diront qu'en fonction de l'hygrométrie, ce n'est pas une température vraiment précise. Mais lui voulait quelque chose de précis.
Voilà. Alors... pouvez-vous nous résumer l'histoire et nous parlerons des personnages. Et ensuite, je parlerai, moi, de ces autodafés parce que du coup, je m'y suis penchée. Je trouvais que c'était très intéressant de voir tout au cours de l'histoire, dans le temps et dans l'espace, la quantité d'autodafés qui ont eu lieu pour diverses raisons idéologiques, politiques, religieuses.
Généralement, c'est lié, tout ça. C'est aussi une mainmise sur la population
oui.
et
avoir un pouvoir
et surtout éviter que les gens se posent trop de questions.
Oui, oui, oui. Alors, résumons.
Alors, c'est un petit livre qui fait 200 pages. Qui est en trois parties. La première partie est très descriptive. Elle décrit une société avec ses mœurs. Alors, c'est une société qui, officiellement, je dirais, a été mise en place pour le bonheur de tous.
Mmh.
Alors, évidemment, c'est le même bonheur pour tous et toutes. Et si il n'y a pas de porte de sortie. Une des façons de maintenir ce bonheur, qui est en fait surtout un bonheur, une capacité à avoir un certain nombre de... C'est très matérialiste, ça, surtout ne rien penser.
Oui.
Et une des solutions est justement les autodafés, c'est-à-dire les destructions de tous les livres quand on arrive à en trouver.
Alors, ce qui ne manque pas de sel, si j'ose dire, c'est que qui brûle ces livres, ce sont les pompiers.
Alors, ce sont les pompiers, effectivement. Il reste quand même les hommes du feu.
Oui.
Et pour bien asseoir le rôle des pompiers, il est dit que de jamais, au grand jamais, les pompiers n'ont éteint d'incendie. C'est leur rôle. Et quand des livres sont trouvés, généralement c'est de la délation, une compagnie de pompiers vient et vient détruire non seulement les livres, la maison dans laquelle ils sont, et si par malheur le propriétaire est là, lui aussi.
Alors, on ne peut pas raconter tout le livre, ce n'est pas racontable. On va parler quand même des personnages. Le personnage principal,
c'est Guy Montague, le pompier, qui est un homme au départ tout à fait docile, qui fait son travail, qui prend un certain plaisir d'ailleurs à le faire. Et puis qui, au fil du livre et du temps, commence à avoir des doutes, s'inquiéter, se poser des questions.
Et de rencontres aussi, parce qu'il va rencontrer...
Deux personnages en particulier. Clarisse, qui est une jeune fille, une de ses voisines, qui, elle, n'est pas du tout sous l'emprise de cette société très, très totalitaire. Et qui, elle aime les oiseaux, elle aime les fleurs, elle aime regarder la lune. Et c'est contraire aux injonctions de cette société. Et elle se pose beaucoup de questions.
Et ces questions qu'elle se pose vont interpeller Guy Montague, donc ce fameux pompier. Alors, il y a également un autre personnage plus âgé qu'il rencontre.
Oui, alors, il rencontre un jour... Alors, les livres sont interdits, c'est inutile de le dire. Mmh.
Donc, on fouille dans les
voilà,
appartements.
Voilà, et il n'est pas question de sortir avec un livre dans une poche, parce que là, on est passible au mieux de prison, au pire, ce qu'on peut imaginer. Et un jour, dans un parc, il voit une personne âgée qui, tout de suite en le voyant, cache quelque chose. Il s'agit d'un livre qu'il était en train de lire. Et déjà, il devait y avoir une petite graine dans l'esprit de Montague, parce qu'il ne le dénonce pas. Il parle avec lui.
Et ça continue à l'ébranler. Et il y a une scène aussi que je trouve très émouvante et je pense que ça a dû jouer. Quand il y a une vieille dame qui va vouloir mourir avec ses livres.
Oui, alors parmi toutes les délations, bon, bah, ils y vont. Généralement, la police, enfin, ça se passe en deux temps, c'est bien organisé. Hein. La police est prévenue, vient arrêter le ou la propriétaire des livres. Et ensuite, les pompiers viennent pour faire leur œuvre de nettoyage. Et là, il y a eu un problème. Ils sont arrivés et la dame était toujours là. Et elle n'a pas voulu quitter la maison. Et c'est elle qui a fini par mettre le feu.
Ah oui, c'est ça. Alors, de l'autre côté, il y a quand même le chef des pompiers, Beatty,
oui.
De même qu'il y a l'épouse de Montague qui ne le suit pas du tout. Dans ses interrogations.
Non, parce qu'elle est complètement immergée dans cette société qui est une société soi-disant du bonheur, qui est très matérialiste et qui est dont le chef d'orchestre, c'est la télévision, qui est émise en continu sur des murs écrans. Alors, c'était il y a 70 ans que le livre a été écrit.
Oui, c'est prémonitoire.
Oui. Et cette télévision, elle est interactive. Elle s'adresse à ceux qui la regardent. Et elle constitue avec les séries, les animations, la seule famille réelle des gens.
On parlera de l'impact des écrans, justement. Mais Marianne Douvière, moi, j'aimerais que vous me lisiez un premier extrait. Il s'agit de ce plaisir de brûler sur ordre qu'a, à ce moment donné, Guy Montague.
Oui, voilà. Qui fait son travail.
Qui fait son boulot.
Oui.
Il fait le job.
Tout à fait. Le plaisir d'incendier. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir, de se transformer. Les poings serrés sur l'embout de cuivre, armés de ce piton géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre dirigeant toutes les symphonies en feu majeur pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire. Son casque symbolique numéro 451 sur la tête massive, une flamme orange dans les yeux, à la pensée de ce qui allait se produire, il actionna l'igniteur d'une chiquenaude et la maison décolla dans un feu vorace qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune, de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles.
Alors, je vais, pour enchaîner, proposer d'écouter un extrait musical du film Fahrenheit 451, qui a été un film britannique, mais tourné par François Truffaut.
En 1966.
Voilà. Avec, évidemment, il y avait Julie Christie. Et puis, alors, l'autre personnage, ça y est, j'ai oublié. Il s'agissait, je crois, si je le retrouve. Bon, ben, oh, oui, Oscar Werner, mm-hmm. Voilà, cet auteur, acteur allemand. Donc, nous pouvons écouter un extrait.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Oui, nous reprenons notre entretien avec Marie-Hélène Douillère, venue nous parler de Fahrenheit 451. Et là, nous avons écouté un extrait de la musique du film, de la bande musicale du film Fahrenheit 451, qui a été tourné par François Truffaut, avec comme acteurs principaux Oscar Werner et Julie Christie. Et je rappelle aussi pour ceux qui ont des mélomanes que cette musique a été conçue par Bernard Herrmann Host. Et Marie-Anne Buyer, moi je trouve qu'en plus cette musique transcrit bien le vide existentiel,
oui.
Je dirais.
Oui, c'est vraiment la vacuité complète, c'est répétitif, c'est...
Il y a une forme de tristesse, hein, énorme.
C'est très énorme, triste, ça. Mais c'est complètement déshumanisé.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, évidemment, vous avez fort bien parlé de ce qui commence à troubler petit à petit Guy Montag, qui c'est comme une naissance finalement, à d'abord de la curiosité, et puis il a le sentiment de ne pas savoir lire, de ne pas savoir comprendre.
Alors, selon le chef pompier, tous les pompiers à un moment ou à un autre l'ont fait, il a volé un, deux ou trois livres pour se faire une idée de ce que c'est. Et il sait lire, mais il ne comprend pas. Et je pense qu'à la fois, ça l'attire, ça l'inquiète et il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont complètement étrangères. Oui. Étrangère, pardon.
Eh oui. Et là, donc, il commence à être perplexe. Il se sent... Il est troublé. Et à un moment donné, voilà ce que je lis, Montague regarda son jeu. Alors, je suppose que c'est le jeu de Bicky.
Non, c'est, ils passent leur journée ou leur nuit. De toute façon, ça se passe la nuit. Les pompiers brûlent la nuit parce que ça se voit mieux, parce que ça fait vraiment un feu d'artifice de lumière et ça marque beaucoup plus les esprits que dans la journée. Donc, ils passent leur nuit à la caserne et ils jouent aux cartes en attendant qu'il y ait une délation.
Oui. Et il dit... Je réfléchissais au feu de la semaine dernière, au type dont on a cramé la bibliothèque. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a embarqué pour l'asile, les hurlements qu'il poussait. Et il n'était pas fou. Bitty arrangea tranquillement ses cartes. Tout homme qui croit pouvoir berner le gouvernement et nous est un fou. Non, j'essayais simplement de m'imaginer ce qu'on ressentirait si des pompiers venaient brûler nos maisons et nos livres, je veux dire. Nous n'avons pas de livres. Mais si on en avait? Vous en avez, vous? Bitty battit lentement des paupières. Non. Le regard de Montague se porta sur le mur où étaient affichées des listes dactylographiées d'un million de livres interdits. Leurs titres dansaient dans les flammes, brûlés au fil des ans sous sa hache et sa lance qui ne crachaient pas de l'eau mais du pétrole. Non. Mais dans son esprit... Un vent frais se leva et se mit à souffler de la grille du climatiseur qu'il avait chez lui, tout doux, lui rafraîchissant le visage. Et de nouveau, il se vit dans un parc verdoyant en train de parler à un vieil homme, un très vieil homme, et le vent qui venait du parc soufflait le même froid. Montague hésita. Est-ce que ça a toujours été comme ça, la caserne, notre boulot? Je veux dire, bon, il était une fois où... Il était une fois, s'exclama Bitty. En voilà une façon de parler. Oui, on a oublié le passé. Alors, oui, ce choix de livre. Je suppose que déjà, bon, le fait est, vous aimez la lecture. Donc, c'est une forme d'apologie quand même de la lecture.
Ah, tout à fait. Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a très très longtemps. Et quand vous m'avez proposé de venir à la radio... Il s'est imposé de lui-même. J'étais même pas très sûre de l'avoir encore chez moi.
Oui, oui. Alors, il y a également un regard sur un passé récent. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que ce livre a été écrit tout de suite, peu de temps après la guerre. Oui. Et on va pouvoir parler des autodafés, parce que dans bien des pays, ça se fait depuis longtemps, ça s'est fait et ça se fera encore. Et ça se fait actuellement.
Et ça se fait actuellement.
Alors, moi, j'ai fait la curieuse. J'ai vu... Alors, autodafé, ça vient du terme acte de foi dans le temps et dans, voilà, pour des raisons religieuses, politiques, idéologiques. Ça a commencé... Enfin, peut-être avant. En tout cas, en 589, le roi des Visigoths, Récared Ier, que je ne connaissais pas, a brûlé déjà des livres. Bon. Au XVIe siècle, en Amérique du Sud, un codex maya, bon, le codex, vous le savez, c'est un cahier formé de pages manuscrites. Finalement, c'est les premiers bouquins, les premiers livres. Ça a été inventé à Rome, hein, au IIe siècle avant Jésus-Christ, un codex, un livre, manuscrit. En Espagne ou au Portugal, pour des raisons d'inquisition, on le sait. En France, pendant la Révolution, avec d'autres symboles culturels, on le sait, il y a eu des églises qui ont été brûlées. En Allemagne, durant la période nazie, dès 1933 d'ailleurs, pour refondre la société. Alors, moi, j'ai été effarée. Même Proust a été brûlé. Marcel Proust, Romain Rolland, Gorky, Freud, Thomas Mann, Hemingway également. Bon, voilà. Et c'est curieux d'ailleurs pour l'Allemagne parce que Heinrich Heine, qui était un homme du 19e siècle, la moitié du 19e siècle, avait dit « Là où l'on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes ». Je trouve que c'était diablement prémonitoire, hein.
Oui, diablement.
Oh, c'est le cas de le dire. On parle de feu ici. Alors, évidemment, il y a Daesh, n'oublions pas, l'État islamique, qui a brûlé, il n'y a pas si longtemps que ça, 2000 livres au sein de la bibliothèque de Mossoul. Oui. Ils s'en sont pris également à la bibliothèque du musée de Mossoul et ont détruit des œuvres datant de 5000 ans avant Jésus-Christ. Les talibans en 98 qui détruisent 55 000 livres rares en Afghanistan. Il y a également la bibliothèque de Sarajevo qui a été brûlée,
oui,
avec des livres rares également. En Iran, dans les années 70, certains auteurs étaient totalement interdits. Et pendant la révolution culturelle en Chine, alors là, de 66 à 76, les gardes rouges devaient purger la société des quatre vieilleries. Alors, les idées, les coutumes, la culture et les habitudes datant d'avant la création de la République populaire de Chine, mise en place par Mao Zedong. Alors, des livres détruits énormément, mais silence total. On n'a jamais entendu parler de ces autodafés-là. Voilà. Alors, évidemment, on peut dire donc que c'est quand même, ça nous fait froid dans le dos, ça fait froid dans le dos parce qu'on sait que c'est, ça se fait toujours. Mais en même temps, je pense que ce livre est donc doublement d'actualité parce que, bizarrement, maintenant, on n'a même plus besoin d'autodafés pour détourner la population de la littérature.
Oui. Alors, on n'a plus besoin effectivement d'autodafé et on a d'autres techniques aussi pour suggérer, imposer de ne pas lire tel ou tel livre parce qu'on va dire que c'est subversif, que c'est pas bon à lire, que, et il suffit dans ces cas-là de lancer des campagnes audiovisuelles.
Voilà. Pas de contestation,
oui.
On élimine les sources de réflexion, tout ce qui est contestation, donc inconfort des dirigeants. Et c'est vrai que les écrans quand même prennent de plus en plus de place. J'ai vu, je ne sais pas si c'est exact, optimiste ou pessimiste, mais des écrans prennent 5 heures de la journée auprès des personnes, tandis que la lecture, une demi-heure au grand maximum.
Oui, c'est pas étonnant. La lecture demande quand même un effort de lire, de comprendre, d'incurgiter et dans la mesure du possible d'en déduire un certain nombre de choses. Un écran, c'est merveilleux. On se met devant, on est passif et les images nous sautent à la figure alors que quelquefois on n'a pas du tout envie de les voir.
Exactement. Mais il y a quand même toujours un espoir puisque il y a ce lettré que l'on rencontre qui lit, qui a un livre contre lui. Et puis il y a la fin aussi qui fait que nous allons rencontrer ce qu'on appelle le book people.
Oui, les hommes livres. Ça a été traduit comme ça,
oui.
Qui, dans l'histoire racontée par Ray Bradbury, avait développé une capacité à mémoriser les livres entièrement, sans erreur, et être capable de non seulement les redire, mais voire même être capable de donner de quoi les faire réimprimer.
Oui.
Mais ce sont des gens hors la loi. Ce sont des gens qui ne vivent pas dans cette société.
Qui se cachent,
qui vivent dans une campagne plus ou moins lointaine de la ville.
Dans la forêt, non?
Oui, ou même le long des rails de chemin de fer. Ils vivent pauvrement, mais ils vivent de façon très différente. Ils vivent en famille, avec des amis, des interlocuteurs, des gens avec lesquels ils échangent.
Voilà, ils discutent,
oui.
Oui. On va peut-être écouter un second passage de Fahrenheit 451, donc un second morceau musical du film de François Truffaut. «
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous avons donc entendu un extrait de la musique du film Fahrenheit 451, musique écrite par Bernard Herrmann Host, et nous reprenons avec Marie-Anne Douillère notre discussion au sujet du livre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Donc, cette musique que nous venons d'entendre, Marie-Anne Douillère, est particulièrement triste, on dirait presque vide, presque... on a l'impression qu'il n'y a rien, que c'est...
C'est lancinant.
Oui.
C'est lancinant. Mais c'est un objectif aussi. Ne pas laisser le temps de réfléchir, ne pas laisser le temps de se poser des questions.
De réagir.
De réagir. Je pense que c'est un peu le béaba des personnes qui veulent manipuler la population.
Est-ce que dans le livre, il dit ce que fait la population du moment qu'elle ne lit pas, par exemple ? Qu'est-ce qu'elle fait ?
Alors, la population travaille dans l'ensemble et dès qu'elle rentre chez eux, il n'y a pas vraiment d'échange avec des amis, des copains, l'apéro n'en fait pas partie. Et dès que quelqu'un rentre dans sa maison, les murs se mettent tout de suite à parler et à intervenir. Par exemple, si dans un couple, le ton monte, la télévision va crier plus fort.
Ah, d'accord. Donc, il y a également une surveillance.
Ah, il y a une surveillance. Elle est d'ailleurs terrible parce que cette télévision, ces émissions sont interactives. C'est-à-dire qu'elles interpellent les personnes dans leur maison par leur nom.
Ah oui, d'accord.
Il n'y a plus de lien social, vraiment. Ceux qui ont des enfants, on leur enlève les enfants dans le plus jeune âge et ils se retrouvent soit seuls chez eux, soit en couple.
Oui.
Et ils ont des familles, les tontons, les oncles, les tantes, qui sont les personnages de ce qui est projeté par la télévision.
Mmh.
Mais ça correspond, moi ça me fait penser à certains... des émissions de télévision où c'est très répétitif, ça revient tout le temps et
oui.
On finit par se dire « Ah mais machin, qu'est-ce qu'il va devenir ?» On oublie que machin est un acteur et qu'après il rentre chez lui et c'est fini. Et ça, c'est ce qu'on vit
maintenant. Mais là, pour le coup, c'était de la science-fiction parce qu'il n'y avait pas encore ce système
du tout.
De télévision.
Mais c'était récent, la télévision, récent.
Oui, oui.
C'était vraiment dans les débuts. Ça ne devait pas être d'une qualité extraordinaire. Mais Ray Bradbury a tout de suite, je pense, imaginé comment elle pouvait être utilisée. Mmh. Et c'est glaçant.
Alors, hors antenne, vous disiez que vous regrettiez que Ray Bradbury n'ait pas inventer des réseaux sociaux.
Alors,
imaginez
qu'il
des réseaux
pas,
sociaux.
Oui, parce que il a inventé beaucoup de choses. Il parle des escaliers roulants, la transfusion sanguine. Parce que tout le monde, c'est le bonheur pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de suicides, beaucoup de morts. Quand les gens sont vraiment à bout, et ils prennent leur voiture pour se défouler, mais est passible de 2 jours de prison si on ne roule pas au-dessus de 150 km/h. Et là aussi, c'est une manière de capter l'attention des gens.
D'accord, oui, bien sûr.
Donc, il parle non seulement de cette fameuse télévision, mais les gens ont un coquillage dans l'oreille qui correspond à ce que nous connaissons comme une oreillette qui parle en continu. Ils vont se coucher avec le coquillage dans l'oreillette. Et je crois qu'on connaît tous, généralement plutôt peut-être chez des plus jeunes, qui s'endorment avec leur MP3 ou MP4 enfoncé dans les oreilles.
Oui.
Il y a 70 ans.
Oui, et c'est là où on se dit que finalement, on ne laisse plus beaucoup de marge aux personnes, mais vous me direz, c'est quand même un choix aussi. On ne laisse plus beaucoup de marge aux personnes pour réfléchir par elles-mêmes.
On ne vit pas dans les mêmes conditions. Là, il y a... une chaîne de télé qui est absolument omniprésente, qui intervient. Nous, on a je ne sais combien de chaînes, dont certaines tout à fait excellentes, et jamais personne ne nous impose de les regarder.
Mmh, c'est vrai. Oui, on a des choix. Et puis, on a le choix des livres.
On a justement. Les choix de livres. On a le...
Alors, il y a quand même une note d'espoir dans ce livre, à la fin.
Oui.
On pourrait en lire un extrait. Alors, je crois, Marianne Duyer, que c'est à la page 216 qu'il y a... Il me semble. Oui, donc, finalement, Guy Montag va fuir cette société et il va essayer de rejoindre les hommes libres.
Alors, il va fuir parce que il a tellement été happé par ses réflexions, son désir de savoir, qu'il n'a pas été prudent.
Oui.
Et c'est là où on s'aperçoit que c'est un peu le tout ou rien. Ou bien les gens ne pensent strictement à rien.
Et obtempèrent.
Et obtempèrent. Ou si on commence un petit peu à se poser des questions, c'est tout de suite la déviance.
Mmh. Il faut sortir de...
Il faut sortir. Ouais. Et il est parti, il a quitté la ville en suivant la ligne de chemin de fer. Et il a rencontré les hommes libres... qui, eux, ont une conception très différente.
Bien sûr. Alors, on va lire un extrait, et je prendrai la suite, si vous voulez bien.
Granger lui posa une main sur le bras. « Bienvenue à l'homme revenu d'entre les morts. » Montag hocha la tête. Granger poursuivit. « Autant faire connaissance à présent. » Voici Fred Clément, ancien titulaire de la chaire Thomas Hardy à Cambridge, avant que cette université ne devienne une école d'ingénieurs atomistes. Là, vous avez le docteur Simons de l'UCLA, spécialiste d'Ortega et de Gassé. Là, le professeur West, à qui l'on doit des travaux non négligeables dans le domaine de la morale, une discipline devenue bien archaïque. Et ce, pour le compte de l'Université de Columbia. Là, le révérend Padover, qui a donné quelques conférences il y a une trentaine d'années et a perdu ses ouailles de dimanche en raison de ses opinions. Ça fait maintenant un certain temps qu'il traîne avec nous. Moi-même, enfin. J'ai écrit un livre intitulé « Les doigts dans le gant, du bon rapport entre l'individu et la société ». Et voilà où j'en suis. Bienvenue, Montag. « Je ne suis pas de votre monde », finit par dire lentement Montag. « Je n'ai jamais été qu'un imbécile. Nous avons l'habitude. Nous avons tous commis le genre d'erreur qui ne pardonne pas. Sinon, nous ne serions pas là. Quand nous étions isolés, nous n'avions que de la colère. J'ai frappé un pompier venu brûler ma bibliothèque il y a des années. Depuis, je suis en cavale. » Voulez-vous vous joindre à nous, Montag ? Oui. Qu'avez-vous à offrir ? Rien. Je pensais avoir une partie du livre de l'Ecclésiaste et peut-être un peu de l'Apocalypse, mais j'ai tout perdu. Le livre de l'Ecclésiaste serait parfait. Où était-il ? Ici, dit Montag en se touchant le front. Ah ! Granger sourit et hocha la tête. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est pas bien, s'inquiéta Montag. Au contraire, tout va pour le mieux. Granger se tourna vers le révérend. Avons-nous un livre de l'Ecclésiaste ? Un seul, un de nommé Harris de Youngstown.
Madame Fauché, je vous laisse continuer. Oui, alors, oui, à un moment donné, ce monsieur dit, la morale, c'est une discipline bien archaïque. Et En vous écoutant, je pensais à ces pays autour de nous où on voit tellement de choses aberrantes qui se vivent, mmh. où les gens sont méprisés, malmenés, où le Covid-19 ne fait qu'accroître les inégalités et la misère.
Tout à fait.
Ouais, et la morale, là où se trouve-t-elle, c'est ce qu'on peut se poser comme question, la religion également. La religion, ben, le pasteur perd ses ouailles peu à peu. Voilà où nous en sommes. Alors, j'essaie de prendre la suite. Montag, la main de Granger se referma sur son épaule. Faites attention où vous marchez. Veillez à votre santé. S'il devait arriver quoi que ce soit à Harris, vous êtes le livre de l'Ecclésiaste. Voyez quelle importance vous venez de prendre en un instant. Mais j'ai tout oublié. Non, rien n'est perdu à jamais. Nous avons les moyens de vous dégripper. Mais j'essayais de me souvenir. N'essayez pas, ça vous reviendra quand le besoin s'en fera sentir. On a tous une mémoire visuelle, mais on passe sa vie à apprendre à refouler ce qui s'y trouve. Simon, ici présent, a travaillé 20 ans sur la question. Et nous possédons à présent la méthode pour nous souvenir de tout ce qui a été lu une seule fois. Aimeriez-vous lire un jour La République de Platon, Montag ? Bien sûr ! Je suis La République de Platon. Ça vous plairait de lire Marc Aurèle ? Monsieur Simon est Marc Aurèle. Enchanté, dit Monsieur Simon. Salut, répondit Montag. Je tiens à vous présenter Jonathan Sweet, l'auteur de cet ouvrage politique si néfaste, Les Voyages de Gulliver. Et cet autre, il est Charles Darwin. Et celui-ci, Schopenhauer. Et celui-ci, Einstein. Et celui-ci, juste à côté de moi, est Albert Schweitzer, un fort aimable philosophe, ma foi. Nous sommes tous là, Montag. Aristophane, le Mahatma Gandhi, Gautama Bouddha, Confucius, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson, Monsieur Lincoln, s'il vous plaît. Nous sommes aussi Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et tout le monde se mit à rire en sourdine. « Mais ça ne se peut pas, » dit Montag. « Mais si, » répliqua Granger en souriant, « nous aussi, nous sommes des brûleurs de livres. Nous lisons les livres et les brûlons, de peur qu'on les découvre. Les microfilms n'étaient pas rentables, nous n'arrêtions pas de nous déplacer, pas question d'enterrer les films pour revenir les chercher plus tard, toujours le risque qu'on ne tombe dessus. Le mieux est de tout garder dans nos petites têtes où personne ne peut voir ni soupçonner ce qui s'y trouve. Nous sommes tous des morceaux d'histoire, de littérature et de droit international. Byron, Tom Paine, Machiavel ou le Christ, tout est là. » C'est très beau, ça.
C'est plein d'espoir.
C'est plein d'espoir, voilà. Alors, peut-être un instant de musique. Un petit instant de musique.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Merci Marie-Hélène Douillère de nous avoir parlé de Ray Bradbury et surtout de son ouvrage Fahrenheit 451. Vous disiez quelque chose hors antenne concernant la science-fiction.
Oui, la plupart du temps, quand on parle de livres de science-fiction, ça fait un petit peu peur. Ceux qui ne connaissent pas se disent non, c'est pas pour moi, c'est des choses qui sont complètement déroutantes, souvent sans queue ni tête. La science-fiction sert simplement de base pour développer une idée. Ce livre aurait pu ne pas être mis dans le thème science-fiction. Mmh. Il n'apporte pas de choses étranges.
Absolument. Et alors, pour terminer, je suggérerais à nos auditeurs au moins un livre. Je pense à Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Shiji, qui vit d'ailleurs à Paris. Dans la Chine de Mao, savoir lire, c'est déjà faire partie des intellectuels. Et on ne badine pas avec les intellectuels, on les envoie se rééduquer dans les campagnes, travailler dans des rizières ou dans les mines. Alors c'est ce qui arrive au narrateur et à son ami, Luo, des jeunes, déjà marqués du soin infamant d'ennemis du peuple, leurs parents sont des intellectuels. Et pour ne pas sombrer, ils ont heureusement encore quelques histoires, quelques films à raconter, mais cela se fait bien peu, jusqu'à ce que par miracle, ils tombent sur un roman de Balzac, un petit livre à lire en cachette, tellement dangereux mais tellement magique qui changera le cours de leur vie. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il fallait oser confronter le monde de Balzac à celui de la Chine de Mao. Eh bien, il réussit brillamment. C'est beau, on sourit, on rit même, et le message passe très bien. Alors, évidemment, il y a d'autres livres, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de parler du livre d'Amélie Nothomb, Les Combustibles. C'est une pièce de théâtre très courte. Amélie Nothomb ne fait pas de long livre. Là, c'est une pièce de théâtre. Et là, dans un appartement d'une ville assiégée, l'appartement d'un vieux professeur de littérature de l'université locale, habite un vieil homme qui héberge Daniel, son assistante, depuis que celui-ci a vu son logement détruit. Voilà. Comme le combustible manque, il faut brûler les livres du professeur pour se réchauffer. Et la formulation habituelle en est « Quel livre emmèneriez-vous sur une île déserte ?» Déserte. La question-là prend tout son sens dès lors qu'elle l'est posée autrement. « Quel livre auriez-vous le moins de scrupules à brûler ?» Voilà, alors chers auditeurs, c'est la question que je vous pose et peut-être me répondrez-vous par les réseaux de radioprésence. Un grand merci et à bientôt.